VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Dakar, 14h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. On commence par la politique aux États-Unis. La transition de l'administration Obama au futur gouvernement du président élu Donald Trump continue. Le milliardaire républicain vient d'annoncer sur Twitter qu'il donnera le 15 décembre une conférence de presse majeure à New York en compagnie de ses enfants pour expliquer notamment comment il va se séparer de son empire immobilier. La conférence de presse portera sur le fait que je quitterai ma formidable entreprise afin de me consacrer entièrement et totalement à la direction du pays pour redonner à l'Amérique sa grandeur, précise Donald Trump, alors que de nombreuses questions de conflit d'intérêts sont soulevées par l'arrivée à la Maison-Blanche de milliardaires à la tête d'un empire économique aux ramifications internationales. Par ailleurs, le président élu a nommé ce mercredi Wilbur Ross comme ministre du Commerce. L'intéressé est un spécialiste du redressement des entreprises en difficulté, très bien introduit à Wall Street. Il avait aidé à ce titre Donald Trump, dont les casinos à Atlantic City dans le New Jersey se portaient particulièrement mal à la fin des années 80. Le président élu a également nommé deux autres membres de son cabinet, dont un farouche détracteur de l'Obamacare, le programme d'assurance maladie du président Barack Obama. Il s'agit du député républicain Tom Price de Géorgie, qui occupera le poste de secrétaire à la santé et aux affaires sociales. L'ancienne secrétaire au travail du président George W. Bush, Helen Chao, est le choix de Donald Trump pour le département des transports. Elle est mariée au leader de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell. Toujours aux États-Unis, le groupe manufacturier américain Carrier, qui prévoit de délocaliser 1 400 emplois pour les installer notamment au Mexique, a annoncé hier qu'il allait préserver 1 000 000 d'emplois à Indianapolis grâce au président élu Donald Trump. Ce dernier a fait campagne sur cette question. Carrier est basé dans l'Indiana, l'État dont le futur vice-président Mike Pence est gouverneur. Afrique maintenant, procès des putschistes à Sikasso au Mali, poursuivi pour assassinat et complicité d'assassinat de militaires. Le chef de l'ex-junte malienne, Amadou Aya Sanogo, a déclaré avoir le moral à l'ouverture de son procès ce mercredi devant une cour d'assises de Sikasso dans le sud du pays. J'ai le moral, j'attendais ce jour, a brièvement déclaré à l'AFP l'ex-général Sanogo. Ce dernier comparé avec 16 co-accusés pour enlèvement et assassinat, complicité d'enlèvement et d'assassinat de 21 bérets rouges dont les corps ont été retrouvés dans un charnier en 2013. Il encourt la peine de mort. Initialement prévu au tribunal de Sikasso, à 370 km au sud-est de Bamako, l'audience se déroule finalement dans une salle de spectacle pouvant accueillir un millier de personnes. La première salle du tribunal ayant été jugée trop exiguë. Le procès mettra le temps qu'il faut pour la manifestation de la vérité, a déclaré le procureur général Mamadou Lamine Koulibaly au début de l'audience devant une salle bondée. Le procès se déroule dans une ambiance de sécurité renforcée avec notamment la présence autour du bâtiment de policiers et d'éléments de la garde nationale, une unité de l'armée. Rappelons que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bamako avait annoncé en décembre 2015 le renvoi aux assises des 17 prévenus dans l'affaire dite des bérets rouges. Politique en Gambie, près de 1 000 000 de Gambiens sont appelés à choisir demain jeudi leur nouveau président pour 5 ans au cours d'un scrutin à un tour. Le chef de l'État gambien, Yahya Jammé, a déclaré mardi que toute manifestation sera interdite après l'élection présidentielle, au moment où la capitale Banjul connaissait d'importants rassemblements en faveur du leader de l'opposition, Adama Barrow. Face à l'ampleur inédite de ces manifestations, le principal leader de l'opposition, Adama Barrow, a pressé le président Jammeh de faire preuve de calme dans le cas où il perdrait l'élection. Porté au pouvoir par un coup d'État en 1994 et élu pour la première fois en 1996, puis réélu à 3 reprises, Yahya Jammeh est pour la première fois confronté à un véritable défi dans les urnes.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Tchad, panique à l'ambassade des États-Unis à N'Djamena. Très tôt ce matin, un individu a tiré à bout portant sur les vigiles en criant « Allahu Akbar ». Il n'y a pas eu de victimes, nous dit notre correspondant dans la capitale tchadienne, André Kodmajingar. Les personnels de l'ambassade américaine ont reçu une alerte leur enjoignant de rester chez eux. Le suspect a été arrêté et égardé à la police pour les besoins de l'enquête. RDC, l'ONU a affirmé aujourd'hui craindre de nouvelles violences intercommunautaires dans le Nord Kivu, province de l'Est de la République démocratique du Congo, trois jours après une attaque ayant causé la mort d'une trentaine de personnes. Dimanche, au moins 30 déplacés ont été tués dans un massacre à caractère ethnique lors d'une attaque contre un camp de déplacés Hutu du village de Luanga par une milice Nandé dans le sud du territoire de Lubero. RDC toujours, le secrétaire général adjoint du parti d'opposition UDPS Bruno Tshibala a été libéré mardi soir à Kinshasa. Arrêté depuis le 9 octobre dernier à l'aéroport international de Ndjili alors qu'il s'apprêtait à prendre un vol pour Bruxelles, puis transféré trois jours plus tard à la prison centrale de Makala, il recouvre sa liberté après 51 jours de détention. L'un de ses avocats, Maître Peter Kazadi, salue la libération de son client et espère qu'il en sera ainsi de tous les autres militants de l'UDPS qui sont encore en détention. On l'écoute.
C'est juste qu'on a avancé les motifs des droits aujourd'hui devant les tribunaux pour démontrer au tribunal que notre client ne méritait pas d'être en détention, d'autant plus qu'il n'y a pas d'indice sérieux de sa culpabilité et que sa fuite n'était pas à craindre. Et le tribunal nous a suivis dans notre plaidoyer, ce qui a fait qu'on l'a placé sous un régime de main levée de la détention, c'est-à-dire que l'instance peut se poursuivre, mais lui en étant en liberté. Le tribunal va prononcer l'affaire au fond. Nous en sommes encore au niveau des, je dirais, préalables et nous attendons voir la suite de la procédure. L'opinion, c'est que c'est injustement que Bruno Tshibala ait été incarcéré. Aujourd'hui, la justice congolaise lui a fait droit et nous souhaitons que les mêmes mesures soient étendues à tous nos militants, tous nos combattants qui se trouvent aujourd'hui en détention.
Maître Peter Kazadi, au micro de nos confrères de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa. Rappelons que Bruno Tshibala figure sur une liste d'une dizaine de dirigeants du rassemblement d'opposition transmise par le procureur général de la République au service aux frontières, avec ordre d'arrêter ces personnes dans le cas où elles viendraient à quitter le territoire. Les intéressés sont accusés d'avoir organisé les manifestations des 19 et 20 septembre à Kinshasa, qui avaient dégénéré en heurts sanglants entre militants anti-Kabila et forces de l'ordre. Le Rwanda a annoncé hier l'ouverture d'une enquête sur le rôle de 20 responsables militaires français dans le génocide de 1994, les précisions de John Lindon.
Selon un communiqué du procureur général Richard Mhumuza, l'enquête porte sur 20 personnes pour permettre de mieux comprendre leur rôle dans le génocide et décider si elles seront poursuivies ou pas. Le communiqué qui cite nommément plusieurs hauts gradés français souligne qu'au fur et à mesure des enquêtes, d'autres agents ou fonctionnaires français pourraient être appelés à assister l'organe de poursuite judiciaire. Le Rwanda souhaite que Paris coopère à cette enquête. L'avion du président Juvénal Habyarimana, allié de la France, a été abattu le 6 avril 1994, ce qui a servi de déclencheur du génocide. Depuis, même les boîtes noires de l'avion font l'objet d'une longue guéguerre entre Kigali et Paris.
Au Gabon, le gouvernement a lancé un nouvel appel au dialogue politique pour que les élections législatives se tiennent dans un climat apaisé. Mais les partisans de l'opposant Jean Ping ont opposé un refus catégorique. Nani Talani.
Pour le gouvernement gabonais, ce dialogue devait poser les fondements des élections législatives apaisées prévues pour, au plus tard, fin janvier. Mais l'opposition réunie autour de Jean Ping, qui continue de se proclamer le président élu, ne l'entend pas de cette oreille. Même les guerres ouvertes se terminent autour d'une table, selon le porte-parole du gouvernement, Alain-Claude Billy Binze. Mais Jean-Gaspard Toutoumé-Aï, porte-parole de Jean Ping, a aussitôt répondu « On n'ira pas au dialogue », ajoutant que les législatives sont inscrites dans la Constitution, pas le dialogue. De son côté, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Ginzou Bandama, qui a rejoint l'opposition, juge prématuré cet appel au dialogue après les morts et les troubles post-électoraux de septembre. La date programmée pour les législatives coïncide avec la tenue de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN, qui se jouera du 14 janvier au 5 février prochain au Gabon.
Et pour terminer, à Cuba, après deux jours d'hommage posthume, les cendres de Fidel Castro quittent définitivement ce mercredi la capitale cubaine pour parcourir le pays jusqu'à Santiago de Cuba, dans l'Est, berceau de la Révolution, où elles doivent être mises en terre dimanche. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.